Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'écriture radiophonique d'un journal, celui d'Arnaud Contreras, qui depuis des années arpente Europe et Afrique de l'Ouest pour saisir ce qui se joue au Mali. Avec l'aide de Brouillon d'un rêve de la SCAM, il a enquêté pour comprendre ce qui anime ces femmes Touareg combattantes. Certaines se battent en zone occupée par les islamistes, où aucune d'entre elles n'a subi la loi de la lapidation et des membres tranchés. D'autres sont dans les camps de réfugiés, où elles ont organisé l'aide, fédéré les ressources qui venaient de l'étranger. Ces femmes sont aussi dans le sud du Mali, où certaines proches du gouvernement ont même, au moment les plus tendus avec les indépendantistes, facilité les négociations. Comme dit le documentariste, si toutes ne sont pas des tribuns, toutes n'ont pas un rôle politique, par contre toutes se sont mises ensemble à hurler en tamashek, la langue touareg, quand la musique a été interdite au nord du Mali en août 2012.
Femmes touareg, les combattantes. Arnaud Contreras, Assia Khalid. La guerre au nord du Mali, qu'a-t-on entendu ? Sur des chaînes télévisées et radios d'information en continu, des experts entraînés aux techniques de communication moderne. À mes oreilles parvenaient d'autres paroles. Ce documentaire est un journal que j'ai réalisé en Afrique de l'Ouest et en Europe durant 3 années, de 2012 à 2015, à la rencontre de femmes touareg, amies, ennemies, sœurs ou cousines, toutes fières et combattantes pour leurs idées. Des femmes touareg en colère, pour ou contre cette guerre, pour ou contre le projet d'indépendance de l'Azawad, d'une partie du Mali, toutes debout. Au travers de téléphones portables ou de minuscules haut-parleurs d'ordinateurs, me parvenaient également des voix féminines, métalliques, ponctuées par des indicatifs de Skype, Facebook, WhatsApp. Des voix de la région dite de l'Azawad, de Kidal, Tessalit, Tombouctou, Gao, des voix aussi de Bamako, Nouakchott, Ouagadougou et des camps de réfugiés. Novembre 2012. Je suis au camp de réfugiés de Mentao, proche de la frontière Mali-Burkina Faso.
Nous sommes dans une formation des foyers améliorés. On nous apprend à construire les foyers améliorés en banco. On est en train de tailler les pierres. Hier, on a pétri les banco. Aujourd'hui, on taille les pierres. Demain, on va passer à la... On continue à tailler les pierres jusqu'à 6 jours pour construire les foyers améliorés. Je m'appelle Matata Waletali. Je viens de Mopti, commune de Mopti.
Quand est-ce que vous êtes arrivé dans ce camp ?
Le 3 février 2012. Je suis originaire de Tombouctou, je suis de tribu Kalansar.
On a l'impression qu'au niveau de la crise qui secoue le Mali, c'est plus les femmes touareg qui s'expriment dans la communauté tamashek, c'est plus les femmes qui portent plus la voix et les hommes sont plus portés sur la politique.
Nous les femmes, on se bat seulement pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Même les hommes qui sont avec nous, on a les mêmes opinions avec nous, les hommes. Le Mali aujourd'hui, on veut quand même aujourd'hui, c'est la politique qui est en train de se mener aujourd'hui au Mali, nous les femmes, on ne l'aime pas. On veut que le Mali soit stable, soit un seul pays unique comme avant, que la paix revienne, que tout le monde puisse vivre dans la paix dans son pays. Que nos enfants aussi puissent, que leur éducation ne sera plus perturbée, qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de... menace qu'il n'y aura plus d'amalgame, la race blanche, la race noire, que ça se cesse.
Parce que vous avez été victime de discrimination en tant que femme blanche, femme touareg.
Beaucoup au Mali, femme touareg. Quand les rebelles se soulèvent, ils se révoltent pour leurs droits, pour leurs revendications. Les gens parmi lesquels nous sommes, qui sont noirs, ils nous attaquent à cause de ces gens-là, parce que ces gens-là sont des touaregs, comme nous. Alors que nous, qui sommes entrés ici, on travaille entrés ici, on ne connaît même pas ces rebelles. Mais on nous attaque à cause de ces rebelles.
Et est-ce que vous avez des exemples concrets qui vous soient arrivés à vous?
Oui, moi j'ai eu des exemples concrets. Il y a mon père qui est mort dans les années 91. Il y a ma mère qui est morte dans les années 94. Mon père, ils sont tous morts à Niafenke.
Et là récemment, dans la crise de 2012, est-ce que vous avez été victime d'actes comme ça ou c'est par peur d'actes?
Moi personnellement, par peur de ce que j'ai vu avant, qui m'a poussé de venir cette fois-ci au réfugié. Je me suis venu réfugié au Burkina. Sinon, avant, dans les années 91, j'étais enfant. Je ne savais même pas ce que veut dire père. Mon père est mort, ma mère est morte en 94. Toujours, j'étais enfant. Cette fois-ci, je n'ai pas entendu attendre cela. Parce que je suis adulte, je suis majeur. J'ai pris mes décisions pour venir réfugié comme mes autres frères au Burkina.
Et est-ce que vous parlez encore avec des femmes maliennes, des femmes bambara, sangaï?
Oui, on parle avec les femmes bambara, on a des amis des femmes bambara, on a des amis femmes sangaï, on a des connaissances, nous sommes nés entre eux, nous sommes grandis entre eux. Moi, personnellement, je suis originaire de Tombouctou, mais je ne suis pas née à Tombouctou, je ne suis pas grandi à Tombouctou.
Donc à Mopti, vous viviez avec toutes les autres communautés?
J'ai 15 ans à Mopti, oui, avec toutes les communautés. On travaille avec ces mêmes gens, on a des relations avec ces mêmes gens, on a des connaissances, il y a des amitiés avec toutes les gens qui se trouvent là, toutes les communautés noires qui se trouvent là.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez retourner à Mopti et être accueilli par vos amis Bambara ou Sangoï?
Ah, ça, je ne sais pas, parce que je ne souhaite pas retourner au Mali ni au Mopti tant qu'il n'y aura pas la paix, définitivement.
Est-ce que vous pouvez nous montrer concrètement ce que vous faites sous la tente? On peut vous accompagner?
Oui, venez. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les voir.
Est-ce que lors de ces activités, vous parlez politique, par exemple?
Non, on ne parle pas politique. On parle seulement entre nous. Chacun de nous donne son avis sur la paix. Sur la paix, on ne cherche pas qui a soulevé, qui veut la paix, qui a déclenché la guerre. On ne parle pas de ça, parce qu'on ne sait rien de cela. On ne peut pas dire que c'est un politicien, c'est lui-là, ou bien un rebelle comme ça, il est avec l'État comme ça, nous on ne sait pas. On sait seulement que la guerre est venue, on ne sait même pas de quelle manière elle est venue. On ne parle pas de politique.
Et donc là, il y a aussi bien des femmes Kelantsar, que Sangoï, que...
Oui, il y a des femmes Sangoï sur notre site ici. Il y a beaucoup de différentes races ici sur le site. On fait toutes les activités ensemble. Tiki de Hogar, Artim Buktu, Tiki Tiki Dan, Haror Janat, Tiki Tigawa, Haregedes, Haringa, Tazawa.
Être pour l'indépendance du nord du Mali, de l'Azawad, s'affiche sur les réseaux sociaux. Les jeunes femmes touareg rivalisent d'inventivité pour broder des vêtements qui arborent le drapeau de leur pays rêvé. Elles dansent et se font filmer lors des concerts de soutien aux quatre coins du Sahara. D'autres femmes touareg, se revendiquant comme citoyennes maliennes, se font plus discrètes. Malgré leur loyauté à l'État malien, elles ont dû fuir à l'étranger à la suite de terribles manifestations racistes qui ciblait au sud du Mali toutes les peaux blanches et peaux rouges, entre guillemets, les familles touareg et arabes. Je retrouve Fadimata Oualetouma, dite Disco, réfugiée à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Je suis Fadimata Oualetouma, dite Disco, responsable du groupe Tartite, chanteuse, musicienne, organisatrice. Je suis réfugiée à Ouagadougou, et puisque vous entendez aussi des gens qui parlent en tamashek, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés ici. à Ouagadougou, donc on est presque tous là, donc on parle notre langue partout où on est.
À quel moment êtes-vous parti du Mali?
On a presque tous quitté le 2 février, Bamako. Nous, quand même, ici à Ouaga, et il y a d'autres qui sont partis plus tard des régions de Tombouctou, Gao, pour venir se réfugier au Burkina Faso.
Est-ce que vous pouvez me raconter à quel moment est-ce que vous avez décidé de partir de Bamako?
Déjà, depuis que les événements du Nord ont commencé, pour nous, ça ne nous intéressait pas, on n'était pas impliqués, on n'avait rien à voir avec ce qui se passait à Kidal ou bien à Gao. On était à Bamako, on était chez nous, on travaillait, on était à l'aise jusqu'au jour où ils ont commencé à casser les maisons de nos familles à Kati. Et c'est ce jour qu'on a décidé de vraiment, on a compris que vraiment c'est quelque chose qui ne s'arrête ni pas seulement à Kidal ou ailleurs, ça va partout. La psychose nous a tous pris, on disait que le lendemain ça serait Bamako. Et on a décidé de partir avant que ça n'arrive. On nous dit que le 3 au matin, ça serait les casses dans la ville de Bamako. Et on a quitté le 2 pour que le 3 ne nous trouve pas sur le lieu.
Qui est-ce qui vous a prévenu? Ça s'est fait par téléphone portable? C'est des militaires qui vous ont prévenu? C'est d'autres tamachèques?
Non, c'est d'autres tamachèques qui nous ont prévenus, qui nous ont dit que voilà, on a déjà vu ce qui s'est passé. Les familles auxquelles on s'est attaqué à Kati, ce sont les familles les plus éloignées de ce problème du Nord. C'est des gens qui n'ont jamais mis leur nez ni dans la rébellion, nulle part. C'est des gens qui travaillent honnêtement, qui ont leur pharmacie, qui ont leur vie, qui n'ont rien à voir avec ni la politique, qui n'ont rien à voir avec rien du tout. Par exemple, moi, ma famille n'a jamais fait partie de la rébellion, mais je suis mariée un ex-combattant, donc, qui est même colonel de la gendarmerie malienne, et qui était là jusqu'à ce que moi je suis partie, parce qu'il ne voulait pas qu'on parte. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas mettre en danger ma vie ni la vie de mes enfants. J'ai dit si toi tu veux rester, tu peux rester, moi je m'en vais. Et je suis partie, c'est plus tard que lui nous a rejoint aussi au Burkina.
Vous avez décidé de venir au Burkina, pour quelle raison?
Parce que déjà au Burkina, on était déjà réfugiés dans les années passées, en 92, 14 jusqu'à 14, et on n'avait pas de problème. On s'est dit que donc on peut revenir toujours au Burkina parce que là les gens vraiment nous ont bien accueillis, ils nous ont bien. Donc pour nous on est chez nous au Burkina parce que la première fois qu'on est venu ça s'est très bien passé. Et même cette fois-ci ça est en train de se très bien passer avec les Burkinabés.
Alors vous n'êtes pas arrivé dans un camp, vous avez décidé de venir vers Ouagadougou. Parce que aussi votre mari est colonel, parce que vous êtes connu aussi, j'imagine, mais vous vous êtes intéressé au sort des réfugiés, au sort des personnes moins aisées.
Oui, parce qu'on est venu directement à Ouagadougou, parce que aussi mon mari aussi connaît un peu la relation au niveau de Ouaga. Et puis, sinon, moi, je voulais même rester dans les camps parce que je suis plus proche de mes sœurs. Pour les aider, et même ici à Ouagadougou, il y a un grand camp où je m'occupe des femmes. Et si j'essaie de m'occuper, c'est de toutes les femmes au niveau de tous les camps, parce que je venais de faire tout de suite un tour dans tous les camps, en passant par Mantao, Djibo, Gantouré, Ferrerio, Gandafabou, Dibissi. Donc j'ai fait tout le tour de tous les camps pour voir la situation des femmes et des enfants dans ces camps.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation des femmes et des enfants dans les camps, tels que vous, femme Touareg, vous la ressentez?
Pour moi, c'est vraiment triste, c'est vraiment terrible ce qui se passe pour les femmes et les enfants, parce que vous savez, le plus grand problème, c'est le problème de l'éducation. Tous nos enfants sont là, ils ne vont pas à l'école, il y a des universitaires, il y a des secondaires, il y a des lycéens, il y a toutes les différentes catégories, parce que cette fois-ci, les Touareg, vraiment, ils se sont lancés dans l'éducation. S'ils ne vont pas à l'école, ça veut dire dans 20 ans, on aura encore toujours le même problème qui va revenir pour nous.
Certaines des femmes qui sont des figures de la communauté Touareg se sont engagées pour la rébellion, pour le MNLA. Est-ce que vous avez parlé avec elles? Est-ce que vous avez des nouvelles d'elles? Certaines ont été emprisonnées?
Oui, je suis un peu au courant des femmes qui ont fait la prison, parce que même nous, on s'est organisé en association ici pour demander au monde entier de venir en aide à ces femmes, pour demander aussi au gouvernement malien de libérer ces femmes. Les MNLA, c'est les MNLA, ils font de la politique. Nous, les femmes, ce qui nous intéresse, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la paix, c'est pour nos enfants. Et ces femmes aussi, je suis en contact, politique. J'ai une fois parlé avec la ministre du MNLA, Nina qui m'a proposé aussi de travailler avec elle. Je lui ai dit, moi, je fais l'humanitaire, je m'occupe des femmes et des enfants dans les camps. Et la politique, je lui ai dit, ne m'intéresse pas. Je ne suis pas impliquée dans l'histoire de la rébellion, mais je suis impliquée pour la lutte pour le droit des femmes et des enfants. Que ce soit à Bamako, que ce soit partout dans le monde, c'est ma lutte que j'ai commencée depuis les années 90. Je suis dans cette lutte pour la sauvegarde de la femme et de l'enfant Touareg et de nos droits. Parce que c'est vrai qu'il y a cette rébellion, elle a ses causes. Elle a ses causes et c'est normal, parce qu'un peuple qui vit depuis des années, des siècles, on retrouve à chaque 10 ans, c'est les mêmes cercles de violence qui reprend. Et à chaque fois, on ne nous fait pas confiance. À chaque fois qu'il y a une rébellion, on essaie de mater tous les Touaregs. Vous voyez, ça c'est un problème, même si je te dis que je ne suis pas là-dedans, je ne supporte pas. Mais j'ai mal. J'ai mal parce que j'ai mal pour moi, j'ai mal pour mon peuple, j'ai mal pour tous les Maliens. Ce n'est pas correct qu'il y a une partie qui se rebelle et qu'on doit s'attaquer à l'autre partie parce que c'est la même couleur ou parce que c'est la même langue ou parce que c'est la même ethnie. Parce que moi, je peux avoir 2 enfants. Il y a un qui est rebelle, il y a un qui n'est pas rebelle. Hein? On ne va pas m'attaquer. On ne va pas attaquer celui qui n'est pas rebelle à cause de celui qui est rebelle. La rébellion, moi, je pense que c'est une révolution culturelle.
Donc on croise une de vos voisines.
Oui, c'est ma voisine.
L'une des impressions en allant dans les camps, c'est que les réfugiés se sont assez rapidement adaptés à la situation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'installation très rapide des réfugiés. Est-ce que c'est dû à leur caractère de nomade ?
Oui, c'est vraiment dit à notre caractère de nomade. Dès qu'on arrive dans un coin, on s'installe comme chez nous. Même dans les déserts, c'est comme ça. Donc je pense que c'est dû aussi à ça. Et puis c'est dû aussi au Burkina Faso, qui est un pays vraiment qui nous a très bien accueillis. Sur le plan, par exemple, personne ne nous dit rien. On ne nous fait même pas savoir que nous sommes des réfugiés. C'est notre situation qui montre que nous sommes vraiment des réfugiés.
لما تايت ما سجدت يا مالنا
Et j'ai entendu parler de familles qui voulaient repartir vers Bamako, notamment des familles de fonctionnaires. Est-ce que c'est votre cas, par exemple ?
J'aimerais bien repartir à Bamako. J'aimerais revoir ma maison que j'ai quittée depuis le 2 février. Je ne sais même pas ce qui se passe chez moi, mais j'ai peur de retourner parce que des gens retournent. Il y a des gens qui sont retournés, mais ils ne sont pas à l'aise. Parce que dans la rue, par exemple, dans les transports en commun, il y a des gens qui leur parlent, qui leur disent « Ah, vous les rebelles, vous êtes ceci, cela ». Donc moi, je n'ai pas peur de l'État, mais j'ai peur surtout des gens qui ne comprennent pas la situation en réalité, qui ne savent pas ce qui se passe réellement et qui profitent de toujours des histoires comme ça pour profiter, pour faire du mal aux autres. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont rentrés sur Bamako. Et on espère qu'ils sont chez eux, on espère qu'ils n'auront pas de mauvaises surprises. C'est ça qu'on demande au bon Dieu et on demande aussi aux Maliens de savoir que nous sommes des Maliens, même si on est réfugiés aujourd'hui, on est réfugiés parce qu'ils ne nous font pas confiance et que nous sommes des Maliens, on doit se faire mutuellement confiance pour vivre sur le même terrain. Parce que nous sommes chez nous et ils n'ont pas le droit de nous chasser. Donc je parle surtout à la partie civile. Au Mali, il y a la tolérance qui était vraiment quelque chose, un atout que nous, les Maliens, on avait. La tolérance, on était bien entre nous, on accueillait les étrangers, les djatigia. Il y a tellement de choses au Mali auxquelles je suis nostalgique, que j'aimerais que les Maliens réfléchissent à notre situation, la situation du Grand Mali, on dit Mali bas. Et aujourd'hui, on est où ? On en est où ? Où est le Mali bas ?
Où sont les vrais Maliens? Hein? Où sont les vrais Maliens? Pourquoi cette haine entre nous? La guerre, c'est une guerre. Elle est faite par des hommes qui font la guerre. Mais nous, les femmes et les enfants, on n'a rien à voir avec cette guerre. On ne l'a même pas cherchée, même si au fond de nous, il y a des choses qui nous manquent. Il faut travailler. On travaille, on essaie que rien ne nous manque. C'est ça que je veux dire à mes frères maliens, qu'ils repensent au Diatiguia malien, qu'ils repensent à la société malienne qui était tellement organisée, qui était tellement diverse, parce qu'on est vraiment beaucoup d'ethnies au Mali, très différentes de cultures, mais on a vécu longtemps ensemble. Ça fait très très mal d'être réfugié. Quand tu es réfugié, tu perds ta dignité, tu perds ta personnalité, tu perds tout ce que tu as dans la vie. Notre fierté, elle est touchée jusqu'au fou. Elle est touchée. On est en train, tous les jours, il faut faire un rang terrible sous le soleil. Il faut attendre des jours en rang pour qu'on te donne 12 kilos de riz, pour qu'on te donne 2 verres d'huile, pour qu'on te donne même pas de sucre, même pas rien du tout. Tu es obligé de faire ce rang, sinon tu ne vis pas, tu meurs. Alors c'est une vie indigne, c'est une vie qu'on ne voulait pas avoir, cette vie-là, pour nous. On n'a jamais rêvé d'avoir une vie comme ça. On a travaillé chez nous, on a été digne, on a lutté politiquement, on a lutté culturellement, on a fait tout ce qu'on peut pour nous, pour notre pays. Mais aujourd'hui, voilà là où on se trouve.
Hormis s'occuper des camps, qu'est-ce que vous faites de vos journées ici?
Je passe presque tout le temps dans le camp. Sauf si je suis en tournée ou je vais aller pour ma tournée. Et je reviens, les tournées qui sont vraiment rares, parce que je pense que les gens ne s'intéressent plus aux musiques traditionnelles, parce que c'est le seul groupe de femmes Touareg qui a vraiment bossé pendant...
Tartite,
oui, c'est le groupe Tartite. Ça fait 17 ans que nous sommes sur l'extérieur, mais ces deux dernières années, les tournées sont de moins en moins. Pour le moment, je ne sais pas si elles vont revenir ou elles vont rester à Bamako. Ça dépend de la situation qu'elles vont trouver.
On a l'impression qu'à la faveur de cette crise, on va plus entendre de musique tamashek à l'extérieur du Sahara qu'au Sahara.
Ça, c'est sûr, parce que le Sahara, c'est interdit. On ne peut pas te... Si on écoute, même si ta sonnerie, si c'est la musique, on te prend ton téléphone. Donc, c'est un Sahara mort, c'est un Sahara... dans lequel il fait mal de vivre, parce que chez nous, les Touaregs, sans la musique, on vit mal.
La guerre au nord du Mali a complètement basculé. Des mouvements indépendantistes qui avaient, selon leurs termes, libéré la Zawad, sont débordés par leurs autres ennemis, des djihadistes. Des unités de femmes touareg combattantes indépendantistes apparaissent. Elles portent les armes, comme leurs hommes. D'autres sensibilisent à la cause, occupent comme elles le peuvent le terrain politique. C'est le cas de Nina Walet Intalou, que je rencontre dans son exil à Nouakchott, en Mauritanie.
Nina Walet Intalou, du mouvement national du MLA, responsable au niveau du groupe politique du MLA. J'ai été toujours sensible aux problèmes de mon peuple, le peuple Touareg. En tant qu'une femme, et la femme c'était la gardienne de la culture Touareg, donc j'avais une responsabilité par rapport à ce peuple. C'est ce qui fait que j'ai toujours participé à tout ce qui est le combat pour mon peuple. Déjà en 90, j'ai participé au combat. Quand j'ai dit le combat, j'ai participé à l'évolution, à la rébellion de 90 pour aider mon peuple. Je n'arrive pas à m'extraire ou à dire non, ce n'est pas mon combat, il ne faudrait pas que je le fasse. En tant que femme Touareg, c'est une obligation pour moi de défendre mon peuple, de défendre la culture de mon peuple aussi.
Lors de la rébellion de 90, de quelle manière est-ce que vous vous êtes impliquée à l'époque?
Déjà, on était très sensible à ce qui s'est passé, aux injustices d'abord qui s'est passé au niveau du Mali par rapport aux Touareg, parce que moi j'avais mon propre petit frère qui a passé l'examen pour la rentrée au Britannique militaire à Bamako. On était à l'époque à Mopti, à Sévaré, et j'étais au lycée, les années 86. Et mon frère étant le premier de toute la région, le fait qu'il était Touareg, ils lui ont refusé d'entrer au Britannique militaire, uniquement parce qu'il était à Guintalou. Donc, déjà, il y avait une discrimination de mon peuple. Et toute jeune aussi, j'ai vu des scènes qui m'ont toujours révoltée. Toute jeune, à l'âge de 9 ans, 8 ans déjà, au niveau de Kidal, les gens à l'époque de Dibissi, là, déjà les gens qu'ils torturaient, j'ai vu des oncles qu'on mettait nid dans les rues pour pousser des barriques. Ils participaient aux travaux forcés, on les torturait. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'est toujours resté. Donc c'est ce qui m'a toujours poussé à m'impliquer à chaque fois que mon peuple ressent cette discrimination et qu'il y a un soulèvement pour lutter contre cette discrimination. Et c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. Quand je me suis présentée aux élections municipales, les femmes étaient très étonnées. Elle ne savait pas que c'était possible pour elle de se présenter. Donc, elle pensait que c'était seulement la chasse gardée des hommes. Donc, j'étais vraiment très fière d'ouvrir la porte aux femmes au niveau de ma région. Et c'est une première dans tout l'Azawad qu'une femme Touareg se présente aux élections. Et c'était très important pour elle. Elles m'ont tout élue d'ailleurs.
Vous avez été élue à quel poste à ce moment-là?
En ce moment, j'ai été élue en tant que maire de la commune de Kidal. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés avec les hommes. Et finalement, ça a mal tourné. Bon, mais les hommes ne voulaient pas que je sois à ce poste. Donc finalement, il y a eu un consensus pour que je me retire de ce poste. Et un homme a occupé ce poste.
Nina, est-ce que ça a créé un appel d'air? Est-ce que d'autres femmes ont voulu se présenter à la suite de votre expérience?
Ah oui, à la suite de mon expérience. Aujourd'hui, d'ailleurs, une de ces femmes qui m'avait soutenue à l'époque, aujourd'hui, elle est députée à Tessalit. Il y a eu beaucoup de femmes qui sont devenues des conseillères au niveau des communes.
À la création du MNLA, vous décidez de rejoindre le MNLA?
Oui, à la création du MNLA, oui, j'ai décidé de rejoindre les MNLA. Il fallait les aider. Et je savais qu'ils avaient besoin de moi. Il y a eu plusieurs qui m'ont appelé. On a rencontré les ambassadeurs. On a rencontré même... J'ai rencontré plusieurs personnalités pour que ça ne se dégrade pas, qu'ils essayent de trouver une solution pour ceux qui sont revenus, tous les réfugiés qui sont revenus de la Libye, aussi bien ceux qui sont revenus avec des armes de la Libye. Mais malheureusement, on n'a pas été écoutés. Pour moi... J'avais pas d'autre choix qu'aller avec les MNLA.
À cette époque, en 2011, vous vivez où ? Vous vivez à Bamako, à Kidal ?
Je vivais à Bamako, à l'époque. Je ne me sentais pas en sécurité. Je voyais des frustrations, je voyais que des gens étaient déjà, ils faisaient attention. On avait peur, on était obligés de quitter Bamako. Les quatre personnes qui étaient choisies pour diriger les MNLA pendant sa création à Zakak, j'étais la seule femme qui était dans ce bureau.
Sur ces premiers mois en fait, de la création du MNLA, il y a notamment des arrestations de femmes à Kidal, je crois, ou à Tombouctou.
Effectivement, il y a eu des arrestations de femmes, des femmes responsables aussi du mouvement. Aminatou Walet Bibi et Assi Walet Itta qui ont été arrêtées par l'armée malienne. Et les Jigamou, qui ont été transportés en prison à Bamako. Ça, c'est après la prise de Menaka et de Tessalit. Il y a eu des comités de soutien, on a même appelé le CICR, on a appelé toutes les institutions des droits de l'homme, on a mis beaucoup de pression pour qu'elles puissent être libérées, parce qu'elles ont été arrêtées juste parce qu'elles organisaient des marches pacifiques, elles n'étaient pas armées, elles ne faisaient pas du mal, elles réclamaient juste leurs droits. Donc il n'y avait pas de raison de les arrêter, de les torturer ou de les amener dans les prisons au niveau de Bamako.
Fin 2013, les réseaux sociaux deviennent des terrains de guerre. Femmes de l'Azawad et femmes du sud du Mali s'affrontent via des vidéos sur YouTube. À Kidal, au nord, les associations de femmes sont les plus actives. Elles organisent chaque semaine des marches pro-Azawad, se filment, puis diffusent leurs vidéos via Facebook.
Cette révolution, elle est surtout basée sur les femmes et la jeunesse. Il y a eu des marches, il y a eu des réunions secrètes. Elles préparaient à manger, qu'elles envoyaient dans les montagnes. Vraiment, les femmes sont les plus impliquées. Et même par rapport aux hommes qui avaient les armes, les femmes étaient plus engagées que les hommes.
Pourquoi est-ce que les femmes étaient plus engagées que les hommes, selon vous, Nina ?
En fait, la femme, c'est le pilier de la culture, de notre culture. Et depuis quelques années, on voit complètement notre culture qui est abandonnée ou qui est complètement assimilée à autre chose, où on veut complètement la voir en train de disparaître. Et ça, on n'est pas d'accord parce qu'on est en train de nous imposer autre chose. Et on est en train de... Akmi est là, les islamistes sont là. Ils nous disent qu'il n'y a plus de tindé, il n'y a plus de fêtes avec les chameaux, il n'y a plus de festivals, il n'y a plus de regroupements autour du tindé, autour de la place où les femmes et les jeunes hommes, par exemple, pour avoir un fiancé, il y a des regroupements où les gens se rencontrent, ils font connaissance et peut-être vouloir se marier après. C'est complètement notre culture qui est en train de disparaître. Et là, les femmes, c'est un gros poids pour les femmes de voir... toute leur identité et toute leur culture disparaître sous le poids d'une autre culture qu'on nous a imposée. C'est pour cela que la lutte des femmes, elle était plus importante et plus engagée que toute autre lutte.
Lors de la rébellion, Nina, est-ce que ce que j'appelle cette sourde influence quand même des islamistes, est présente. Parce qu'on vous voit un peu au début, après vous disparaissez de la scène publique, on vous revoit par un article du Monde, après on vous revoit plus. Est-ce que c'est du fait du mouvement ou est-ce que c'est de votre fait?
Déjà, je sais que les femmes au niveau de Kidal, à part les marches et tout ça, d'ailleurs, moi, je me plains tout le temps au niveau du mouvement. Je dis, bon, les femmes, elles ne sont pas impliquées au niveau politique, au niveau, par exemple, des missions ou même de la commission de négociation. Je suis la seule femme, c'est pas normal. Et on ne peut pas utiliser les femmes pour des marches et tout ça. Et le reste, maintenant, il faut que ce soit les hommes. Je dis, on n'est pas d'accord. Bon, et je vois effectivement qu'il y a quand même une influence islamique qui commence à gagner certainement notre société. Et ça me fait très peur. Il y a souvent des voyages où les femmes peuvent participer. On dit, ah non, ça, bon, c'est dans un milieu arabe, il vaut mieux que la femme reste et tout ça. Je trouve pas ça normal. Ça me fait très peur, l'influence quand même que les islamistes sont en train d'avoir sur notre peuple, sur nos hommes, sur notre peuple.
Nina, les différents conseillers du mouvement leur disent pourtant régulièrement, mettez en avant les femmes. J'ai même rencontré un responsable communication qui dit, j'arrête pas de leur dire, mettez en avant les femmes. Mais ils ne le font pas. Pourquoi, à votre avis?
Ils ne le font pas, je ne sais pas. Parce que moi-même, je me suis toujours plainte de ça. Bon, l'autre jour, je sais qu'il y a un congrès bientôt au niveau de Kidal, un congrès des femmes. Et les femmes vont choisir certaines femmes qui vont quand même participer à certaines activités. Mais je pense que là aussi, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pression. On se voit vraiment exclu de tout.
En 2014, la guerre continue. Les familles pleurent leurs jeunes, pro-Azawad ou pro-Mali. Je retrouve Bamako, la capitale malienne. En apparence, peu de choses ont changé. Les rues semblent loin de la guerre, loin des paroles des femmes, loin des dizaines de milliers de réfugiés qui croupissent dans des camps au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie. Sur les recommandations d'une femme pro-Azawad, je me rends dans sa famille, dans un nouveau quartier en banlieue, entièrement peuplé de Touaregs dans de belles maisons. Je suis un peu perdu, je m'attends à rencontrer des militantes pro-Azawad et me retrouve dans une maison pro-malienne. C'est bien d'être surpris, choqué dans ses certitudes. Comme dans toutes les guerres, la politique divise les familles.
Je m'appelle Fadimata Walad Sarug. Moi, je suis née dans la région de Gao.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous et votre famille dans les années 90-91? Vous êtes resté au nord du Mali?
Ils ont tué mon père en 92. Donc en 94, on a quitté, nous sommes partis. Parce que là-bas aussi, j'étais dans un petit village, on a cassé nos maisons, on a amené tout ce qu'on avait. Et nous sommes obligés d'aller. Je suis partie avec mes enfants. J'ai 4 enfants, ils étaient tous petits. Je préfère quitter parce qu'il n'y a pas de paix. J'étais réfugiée au Burkina. J'ai fait 94, 95, 96, 97. 99, je suis revenue chez moi, au Mali. Parce qu'il y avait la paix, nous sommes revenus. Nous sommes revenus au Mali. À notre retour, nous sommes retournés dans nos maisons. On a mis nos enfants à l'école, nous sommes restés. On pensait qu'il y avait la paix. Avec les événements, il y a eu beaucoup de déplacés. D'autres ont quitté Kidal pour venir à Ségou même. D'autres sont retournés, d'autres ne sont pas retournés. D'autres ne veulent même pas retourner encore. Donc il y a eu des échanges. La culture Touareg, ça change un peu par rapport à avant.
Qu'est-ce qui a changé de la place de la femme Touareg?
La femme Touareg a beaucoup changé. Avant, tu es dans la maison, tu t'occupes des enfants et puis c'est tout. Le reste, là, c'est pas ton problème. Bon, maintenant, tu vas voir une femme déplacée, elle est à Ségou, son mari, il est à Kidal, ou bien il est à Gao. Elle est obligée d'aller rencontrer les ONG, amener leurs papiers, amener les enfants. Avec les événements là, elles deviennent braves plus qu'avant même. Ce sont les femmes qui ont ce rôle Quand tu viens, on te dit à une femme de venir, tu viens avec tes enfants. Et tu vas parler comment tu es devenu réfugié, comment tu es réfugié, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qu'il te faut. Et c'est la femme qui dit tout.
Est-ce que vous avez fait partie d'initiatives pour la réconciliation au Mali?
Oui, moi j'ai fait partie de l'initiative parce que je suis une femme idéale de trait d'union pour la paix, pour le CDAO, pour la réconciliation. Ce sont les Espagnols qui nous ont fait, ils nous ont fait pour quelques jours, la formation là nous étions au nombre de 95 femmes. Ça m'a donné beaucoup d'idées, j'ai vu beaucoup de femmes et puis on a parlé. Après ça, ils nous ont pris encore au nombre de 25 femmes, j'étais aussi parmi les 25 femmes. Ils nous ont donné des attestations pour la réconciliation en tant que femme idéale.
À quoi ça a servi cette formation? Est-ce qu'elle a été mise en pratique?
Oui, cette formation, ça a beaucoup servi. Parce qu'avant, on avait peur des femmes du sud, on perd des femmes du nord. On s'est méfié d'entre nous. Bon, les jours de formation qu'on a fait là, ça nous a fait rapprocher la femme touareg, la femme arabe, la femme soareg, la femme pel, la femme bambara. On nous a fait rapprocher. Et puis on s'assoit, on fait des débats. Chacun parle de ce qu'elle voit.
La guerre continue au nord, et les Touaregs sont divisés.
Oui.
Est-ce que les femmes des différents combattants se parlent entre elles?
Oui, on se parle entre nous. Il y a une méfiance, mais on se parle entre nous. On se parle entre nous. Moi, je sais ce que je suis et toi, tu sais ce que tu es. Mais il y a une méfiance entre nous. Maintenant, plus qu'avant. Il y a vu à cause de cette guerre-là.
Malgré la gravité de la situation, les femmes touareg continuent de manier leur humour piquant. En ligne apparaît une figure, Tamosit, la chatte de l'Azawad. Grâce à une appli pour téléphone mobile, qui présente une chatte qui imite une voix de dessin animé, les jeunes du Nord essaient de faire passer des messages indépendantistes, des critiques de la société malienne. Femmes pro-Azawad ou pro-Mali regardent et écoutent toutes ces caricatures, en discutent en ligne.
Moi, c'est Aïchatou Walad Souleyman. Je viens du nord du Mali, de Kidal et Gao.
À quel moment est-ce que vous êtes arrivé à Bamako?
Moi, ça fait longtemps que je suis là, avec la famille. Mais après, quand il y avait eu des problèmes, j'ai eu la famille qui est arrivée chez moi, qui sont enfuies pour les problèmes qui se sont passés au nord. Voilà.
De 2011-2012,
je parle.
Est-ce que vous pouvez me parler d'avant les événements? Comment est-ce que ça se passait, les rapports entre femmes des différentes cultures?
Ça se passe bien. On était des bons voisinages entre les Touaregs et les Sorayes, on n'a pas autant de problèmes. Peut-être qu'il y a des choses sous l'eau qu'on ne connaisse pas, mais on n'a jamais eu de problème avec eux. On ne sait pas comment ça s'est enflammé d'un coup comme ça, et que les gens commencent à ne plus avoir de rapport entre eux, entre Sorayes et Touaregs, et il y a une méfiance totale entre eux. Bon Dieu merci, on a travaillé déjà là-dessus. Et ça a beaucoup aidé, les gens ont compris, les gens ne font plus l'amalgame. Mais ça m'a beaucoup fait du bien. Parce que le fait de voir quelqu'un dans la rue et qu'on agresse, qu'on lui parle mal, soi-disant parce qu'il est clair ou qu'il est de sa couleur de peau, on le traite de rebelle. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et je témoigne souvent à être là pour dire pourquoi, qu'est-ce que la personne t'a fait, pourquoi tu le traites de telle sorte, de rebelle ou un truc comme ça. Mais là, ça va. Là, franchement, ça va, ça commence à évoluer, les gens commencent à comprendre et c'est l'essentiel. Nous, on a peur d'aller, on a peur de voyager. Tu peux même pas aller en voyage. Où tu vas, tu as une mauvaise image parce que tu es Touareg et que tu viens du nord. Parce que là où il y a la guerre aujourd'hui, c'est Kidal et Gao. Et nous, on vient de là-bas. Souvent, tu as même peur de certains amis. Ils se méfient de toi parce que tu viens de là-bas, parce qu'ils se disent plein de choses sur toi. Ils peuvent se dire, ils le disent pas devant toi, mais derrière toi, ils te disent. Ils ont peur vraiment parce qu'ils se disent, ah, elle vient de Kidal, elle doit être rebelle comme ses frères et machin, tu vois. C'est pas parce que mon frère a pris un arme que moi je vais être comme mon frère. C'est pas possible. Je suis moi et mon frère, il est lui. Il a choisi son destin de prendre une arme et moi je choisis de vivre et d'essayer de vivre et d'essayer d'aider les gens. Et personne n'ose parler, mais pourquoi? Si les gens ne se parlent pas, ça ne peut pas se régler. Le problème, c'est ça, tu vois. Aujourd'hui, au Mali, les gens, on parle du Nord, mais on ne parle pas de la vraie chose qui se passe au Nord, les vrais trucs qui se passent au Nord, les problèmes, tout ça là. On ne parle pas. Il y a moins de gens qui connaissent le Nord. Il n'y en a pas qui fait... Le gouvernement part, ils sont là-bas, ils sont installés, mais est-ce qu'ils connaissent tout au fond du Nord ce qui se passe? Il n'y en a pas. Chacun n'a qu'à se parler et qu'à se pardonner et puis les gens puissent vivre. Parce que nous, c'est pas aujourd'hui qu'on vit avec les Sorailles, les Bambara, les machins, mais avec cette guerre qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. C'est pourquoi même ça a lié. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous de cette guerre. Et on aimerait bien que ça change, que les gens puissent se comprendre, qu'on puisse vivre ensemble, tu vois.
Amanoui kawalen, sadwalen tayishe, sadwalen nuar, dawata jarta zude. Amanoui kawalen, sadwalen tayishe, sadwalen nuar, dawata jarta zude.
Dans un autre quartier de Bamako, une vieille femme m'accueille. Des accords de paix se profilent, mais son ton est grave.
Moi, je suis Fatma Inawilen. Je suis de la région de Kidal, mais étant déplacée ici à Bamako maintenant. Je suis là depuis le 26 juin 2012.
Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu le quartier? C'est un quartier Touareg à Bamako?
Presque la majorité des Touaregs sont là à Bamako, mais il y a d'autres qui sont dispersés dans les autres quartiers. C'est ma première fois dans ma vie que je me suis réfugié à l'extérieur de mon pays.
On a l'impression qu'à Kidal, il y a beaucoup de manifestations de femmes.
Oui, maintenant, selon ce qu'on apprend, c'est comme ça, mais c'est pas fait, parce que je ne suis pas à Kidal. Donc, on apprend comme ça qu'elles font des manifestations. Moi, ce que je pense, c'est pas gratuit quand même. Si les femmes se soulèvent comme ça, sans écouter personne, peut-être. Elles savent pourquoi. Elles ont leur stratégie à part, ou bien elles ont un objectif à atteindre, je sais pas.
Vous vous sentez proche ou éloigné de ces femmes qui manifestent?
Je suis éloigné de ces femmes parce qu'il n'y a pas de contact entre ces femmes-là et moi. Donc, je me dis qu'on est éloigné. Et j'ai pas de contact avec ces femmes.
Le fait que les Touaregs soient un peu divisés quand même au nord du Mali en ce moment, est-ce que ça joue sur les relations entre femmes?
Non, pas ici quand même. Si on n'a pas de problème. En tout cas, chaque personne garde ce qu'il a intérieurement, mais ça n'a jamais été visible. Quand il y a des mariages ou des baptêmes, on assiste toutes, il n'y a pas de problème entre les femmes ici. Pas à ma connaissance.
Quel que soit le mouvement de leur mari,
quel que soit le mouvement de leur mari, ça n'a jamais été un problème avec nous ici à Bamako.
Est-ce que il y a un moment où vous allez vouloir revenir à Kidal?
Ah, bien sûr. Même demain, si il avait, je retournerai à Kidal. Bien sûr. Le moment qu'il y aura la stabilité. On est là ici à cause des enfants qui sont à l'école. On ne peut pas. Cécile, maintenant, ils ont perdu combien d'années? Lui, il doit faire la terminale depuis l'année dernière, or que c'est cette année qu'il a fait la dixième.
Est-ce que le fait qu'il y ait eu des années blanches des années vierges de classe, ça a fait qu'il y a eu plus de filles qui se sont mariées aussi?
Bien sûr, Cécile. Il y a eu beaucoup de filles qui se sont mariées. Si tu n'as pas les moyens... Donc tu es obligé de laisser la fille là-bas. Si tu as un mari, tu lui donnes.
Et ça, vous avez quel regard là-dessus?
J'ai un regard vraiment qui ne fait pas avancer notre région, vraiment. Parce que si une femme est éduquée, c'est comme si c'était une nation toute qui est éduquée. Vraiment, si nos frères vraiment arrivent à réfléchir, c'est mieux quoi. Parce que dans la guerre là, il n'y a que des pertes. De voir au moins ce, l'état de nos enfants aujourd'hui, qui seront les futurs responsables de notre région. Il y a vu les empêcher leur éducation. Vraiment, je les en veux beaucoup pour ça. On ne met pas l'éducation en otage. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est lettré, il ne voit que le bout de son nez. Donc vraiment, le message que je fais à tous mes frères Touareg aujourd'hui, c'est de voir l'avenir de leurs enfants. C'est tout. On peut réclamer. On peut se battre avec son bic. Le bic est plus fort que l'arme. S'ils arrivent vraiment à comprendre ça, éduquer les enfants, éduquer les filles, vraiment, c'est tout ce que j'ai à les dire. Les femmes, ce qu'elles peuvent vraiment, si elles s'engagent à les faire, la manière dont elles se sont soulevées, sous les balles, tout, elles peuvent aussi se soulever pour la paix. Aujourd'hui, il n'y a pas une femme qui n'a pas son frère, son fils, au niveau de ces mouvements armés. Même moi qui est là à Bamako. Personne ne peut dire qu'il n'a pas son parent, il n'y en a pas. Même si tu n'es pas du même avis que ce sont tes frères, ce sont tes fils, ce sont tes parents, ce sont tes oncles, tout, tout, tout. Donc, aujourd'hui, tout ce qui peut les ramener en paix est le meilleur. Il y a une manière de faire la guerre qui n'est pas le fusil. C'est tout.
Femmes Touareg, les combattantes. Merci à Jacqueline Dupuis, Aboubakri Nagrissa, Frédéric Miguel. Attachée de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Stagiaire, Milena Elig. Coordination, Irène Omelianenko. Mixage, Delphine Baudet. Réalisation, Asia Khalid. Une série documentaire d'Arnaud Contreras pour Sur les Docks, avec le soutien de la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM.